production podcast.
Essaye ça.
Hey, salut tout le monde, bienvenue à ce nouveau Terrain Basique. Mon nom est Tommy Godette et cette semaine, au son de Contrat. Quel classique, hein? En haut, en bas, gauche, droite, B, A, select, start, parce qu'on joue avec le petit frère. On va aujourd'hui parler un petit peu du Magic qui n'est pas carte de papier, la version en ligne et tout. Pour ce faire, comme d'habitude, on est flanqué de Jason Keys, petite encyclopédie de Magic vivante, ça va?
Bonjour.
Ah ouais, parle-moi de toi, là.
Écoute.
Ah, c'est assez, tu parles tout le temps de toi. On est aussi accompagné de Milan, super technicien.
Hey, salut.
Mais oui, Milan, on est en train de monter un studio ici pour essayer de diffuser du visuel.
Pour la deuxième fois, Tommy. Hein?
Ben oui, on va recommencer douteux.tv autrement. Ça devrait être. C'est fou comment avant la console prenait mettons, 10 mètres cubes. Et à cette heure, ça va prendre 1 ou 2 mètres cubes installer tout ça. Seulement en 4-5 ans d'évolution de la technologie. Voilà, on est en 2019. Merci Milan de nous accompagner avec ça et merci d'être avec nous pour cet épisode. Toi, t'es plus un fan de Magic Online que de Magic Arena.
Effectivement, ben j'ai joué un peu à Magic Arena récemment par curiosité plus okay. qu'autre chose, mais jadis je jouais beaucoup à MTGO.
Et voilà. On va développer un petit peu la nuance entre les deux tantôt. C'est sûr que Jason en a à dire. Là, je viens d'y couper la parole. J'ai dit, c'est en train de bouillir. Sinon, ben, on est flanqué aussi par Olivier et François Lompré. Vas-y, François.
Salut les magiciens.
Et voilà, c'est
All of them witches.
C'est voilà. Je sais pas si ça va lever, mais bon.
Ben, moi, je vais le faire lever.
Ah oui, c'est ça.
Shout out à Roman et Mini Castevette.
Et voilà. Toi Olivier, t'es en train de nous faire des tokens en plus. T'es un artiste, hein,
ouais.
On pourrait
dire ça, ouais.
Ouais, t'as-tu comme un site que on pourrait inviter les gens à aller visiter?
Non, pas encore, mais j'ai un Instagram que je tente de meubler là, dans mon temps.
Let's
c'est,
go,
je
man.
Pense que c'est Docteur Dracula Bourbonnais, je m'en souviens plus.
T'as fait ça compliqué,
c'était une photo comme d'un ragoût, là, d'une soupe qui avait l'air. Les choses étaient disposées comme la face de Calimero qui était dessus.
Et voilà. Mais... sinon, ben, ça me fait plaisir aussi d'annoncer il y a quelques semaines de ça déjà, mais on a modifié la description de la page Facebook de l'émission pour inclure un petit peu d'informations personnelles, une mini-bio de tous les collaborateurs. Merci à vous d'avoir embarqué là-dedans et vous allez avoir les liens vers le SoundCloud de Bone qui nous fait notre trame sonore ainsi que d'autres affaires importantes. Et en fait, ça nous amène à parler avec François Lompré qui est probablement le plus prolifique créateur de mimes de notre page. Salut François!
Oui, salut, ça va bien?
Ben oui, certain. Toi, t'es-tu un fan de Magic Arena, de Magic Online?
Ben, je viens de m'y remettre, puis c'est ça, vendredi, j'ai joué à peu près 12 games et j'en ai pas perdu une seule.
Non.
Avec Grul!
Et voilà, faut que tu joues contre du monde virtuel pour gagner, mon
Exactement.
François. La solution est là. Jason, peut-être tu peux commencer à nous expliquer un petit peu la différence, parce que là, on a parlé de Magic Online et de Magic Arena. C'est probablement les deux formats du jeu les plus populaires, les plus...
les deux logiciels.
Ouais. Les deux logiciels, voilà, les développements.
Ben, MTG Online, Magic the Gathering Online, qui est sorti au début des années 2000 et qui n'a jamais vraiment été updaté depuis, à part d'ajouter les nouveaux sets. Là, mais tu sais, c'est de la vieille technologie qui est pas mal le fun si tu veux jouer à tous les formats, parce okay. qu'il y a tous les formats old school, vintage, legacy, commander.
Fait que toutes les cartes.
Toutes les cartes sont sur MTG Online.
Puis ils font juste en rajouter d'autres.
Ouais, ils font juste en rajouter. Il faut que tu fais quelques programmations pour les nouvelles mécaniques.
Ouais, ouais.
Donc, c'est plus. Il y a beaucoup de pros qui sont sur MTG Online. C'est beaucoup diffusé sur Twitch. Donc, si tu veux jouer des vieux sets de Magic, tu vas sur MTG Online. C'est probablement ce que Milan fait.
Ouais, ben, moi et Olivier, en fait.
Ouais. Ouais. C'est quoi la différence, Milan, entre MTG Online et Magic Arena?
Ben, MTGO, c'est plus. Tu peux faire des erreurs. Tu sais, ils te prennent pas vraiment la main. Plus que dans une game normale face à face, mais Arena, tu peux pas faire d'erreur. Là. Ils disent vraiment, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ton trigger, il faut que tu fasses ci. Là,
ok, ouais, parce que dans le sens, je me rappelle, j'ai joué à Magic Online, ça doit faire 20 ans, là, mais à un moment donné, il faut que tu fasses F2 pour qu'une affaire ça s'active automatiquement. Mettons que tu as un trigger, non, tu gagnes un à chacun de tes upkeep,
c'est
là, à un moment donné.
Pour la priorité.
C'est
ok, en fait.
Ok.
Mais c'est vraiment, faut que tu sois attentif, faut que tu sois à ton affaire. Tu peux pas comme checker des vidéos YouTube, tu dis, ah, c'est à mon tour. genre, faut vraiment que tu suives parce qu'il te le propose. Veux-tu répondre à ça? Veux-tu tout le stack qui te... Tout se fait dans l'ordre. Il n'y a comme pas de place à l'erreur. À part l'erreur humaine qui est de skipper ton moment de réponse puis de faire « Ah oh shit, j'ai tapé du mana pour rien parce que je peux pas faire mon spell maintenant. » Parce que j'ai pas dit oui autant.
Là on parle d'Arena, là.
Arena, ça se fait tout seul. Puis Arena, t'as des animations, t'as un plus beau board. Ils sont arrivés comme après Hearthstone. Fait qu'ils essayent de pogner une part du marché. Mais MTGO, c'est comme sans artifice. T'as comme vraiment juste le dessin de la carte puis des petits effets sonores vraiment cheap. Pas d'anime là.
Ouais, j'avoue que Magic Arena, il y a. Mettons que tu summones un gros dragon, ben là, des fois, tu le vois, puis moi j'activais mon spectacle avec les Rakdos, puis ça faisait une espèce de grosse chaîne qui montrait qu'à cette heure on avait du fun jusqu'à la fin du tour. toi, François, tu vois-tu une différence entre les deux? T'es-tu plus fan d'un ou l'autre?
Oui, puis même, je pourrais en rajouter un autre, Dual of the Planeswalker. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ouais, c'était sur console, surtout, je pense.
2012, me semble.
Ouais, puis moi, ce que j'aimais celui-là qui était différent des autres, c'est que tu pouvais jouer en multiplayer. Toutes les nouveaux, le online, puis le.
Non, mais MTG Online, tu peux. Non, tu peux pas. C'est du duel contre un
C'est tout duel sauf Duel of Planeswalker, mais ça.
MTGO, tu peux jouer en multiplayer. Si tu joues à Commander,
Oui.
Il y a moyen de jouer en multiplayer, mais je pense Arena, c'est
Arena, tu peux seulement. Mais Arena, c'est seulement draft et standard.
Puis en fait, c'est tout récent, mais là, tu peux provoquer du monde que t'as le mot de code, là, que t'as le nom. Peut-être mais qu'on pourrait...
C'est ça. Ben, pour finir, je dirais que, ce qui est bon d'Arena, je trouve, c'est que si tu veux initier quelqu'un à Magic, c'est le programme.
Officiel.
Tu l'envoies là-dessus, là. C'est là-dessus qu'il va apprendre.
Les étapes sont bien claires aussi. Puis je dirais, nous, on joue beaucoup pas d'arbitre, pas de juge. Et il y a beaucoup de nos interprétations des règles qui ont évolué suite à comment on la joue sur Magic Arena. Et ça, moi, je trouve que c'est super bon pour le jeu. Que le wording des cartes, tranquillement, pas vite, ça devienne quelque chose que deux machines peuvent jouer l'une contre l'autre. Ça fait que là, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de zone grise, on avance avec ça. Genre, je suis sûr que le jeu s'est beaucoup amélioré dans son wording, juste parce que justement, ça se passait en ligne, c'est une machine qui pouvait répondre à une machine. Moi, j'ai la conviction que c'est une très bonne chose que ça se passe comme ça. Jason, François, t'as l'air de vouloir...
Non, c'est bon.
Jason, un petit dernier mot avant qu'on aille vers la carte de la semaine. T'as-tu un favori?
Moi, j'invite tout le monde à installer Arena puis MTG Online. Puis un jour, probablement, que le monde de terrain basique, on fera des Twitch.
Et voilà.
Oh, j'ai peut-être une petite précision à faire. MTGO, c'est payant.
Oui, c'est ça.
Tandis que Arena, c'est complètement gratuit, sauf que tu peux payer pour avoir des boosters de plus, mais à la base, tu peux jouer gratuitement. Plus que tu as des coins pour acheter d'autres boosters. Tu peux jouer tout le temps gratuitement à Arena. Tandis que MTGO, faut que tu achètes des boosters. T'as pas le choix.
Tu peux acheter des boosters, mais moi, je conseillerais pas de faire ça. Moi, toutes les cartes sur MTGO, je les achète de bot. C'est comme la version digitale. Puis c'est que celle dont j'ai besoin parce que acheter des boosters pour MTGO, dans le fond, c'est tu peux trader des boosters ou des tickets pour des événements.
Oui.
Fait que tu peux dire je veux m'inscrire dans ce tournoi-là, fait que ça coûte 9 tickets ou tu peux monnayer des boosters. Sinon, c'est pour drafter parce que c'est pas une bonne économie comme telle. Tandis qu'Arena, acheter des boosters, c'est moins grave. T'sais.
Ben même tu t'en fais donner quand même souvent.
Tu peux grinder pour en avoir. Mais MTGO c'est
Est-ce qu'à MTGO il y a des decks proposés? Parce que je sais qu'à Arena, il y a beaucoup de decks
Okay, ils t'en donnent stock,
ils
donnent
un moton de cartes, là, mais...
C'est pour les... Tu sais, je dis correct, là, c'est merci, là. C'est pour les débutants, plus. Là.
Ouais. C'est ça.
Mais c'est pas... Le marketing, il est comme moins bon. Mais de toute façon, Arena, c'est plus récent. Fait que c'est plus ça. Adapté.
Fait que Arena, c'est mieux pour les débutants. Comme
largement.
Milan, tu voulais dire quelque chose?
Ben dans le fond, MTGO, c'est pour le monde qui savent déjà jouer à Magic.
Ouais.
C'est pour... en fait, il y a beaucoup de pros qui l'utilisent pour playtester parce que ça coûte pas mal moins cher d'acheter un deck sur MTGO que d'aller faire toutes les 5 card shops dans ta ville et d'acheter toutes les cartes. Tu vas à un shop, j'ai juste des foils, fait que ça te coûte 3 fois plus cher. Puis dans le fond, finalement, tu finis que tu veux pas jouer ce deck-là. Puis ça vient de te coûter 3000$. Et c'est super cool pour Vintage parce que Vintage, c'est accessible à 0.01% de la population. Tu peux t'acheter
de la population de joueurs de Magic.
Exactement. Tu peux t'acheter un deck vintage pour peut-être 300-400$. que dans la vraie vie, ça t'aurait coûté 40 000, tu sais.
Ouais.
Fait que ça, c'est cool. Puis tu peux aussi jouer Vintage Cube, qui est un draft de cartes présélectionnées qui n'est ouais. pas, pas juste, mettons, alpha, qui est plein d'affaires random qui changent un peu souvent.
Mettons, c'est toi qui veux le Sol Ring au plus vite. Fait c'est, que, ça. C'est ça, tu pars.
La seule affaire qui fait de la peine avec ça, c'est que c'est Phantom. Tu gardes pas les cartes après.
Exact.
Oh, ben, fait, François, fais un petit câlin à Olivier. Là.
Ben, ouais, mais t'sais, quand tu viens de drafter 3 Black Lotus, tu veux les garder, mais là, tu peux pas.
Calisse, imagine 3 Black Lotus, on se paierait une Hostie Studio. Merci beaucoup, les gars. On s'en va un petit peu plus loin dans l'émission, mais avant, on est écoute le beat à bombe. Cette semaine, c'est toi qui as choisi la carte de la semaine. Milan, je te laisse nous amener vers ça.
Eh ben oui, écoute, Teferi, Hero of Dominaria, du set de Dominaria. Moi, dans le fond, tu sais, Tommy, j'ai fait, bon, 22 ans plus ou moins que je joue, là, presque la totalité de l'existence de Magic. Et j'ai toujours des passes où j'arrête de jouer.
Okay.
Puis là, ben, j'ai recommencé à jouer il y a 2-3 mois. Et moi, j'ai pas connu Dominaria.
Hein? Ah!
Non, non.
Ok, quelque chose. Manque de quoi avoir.
J'ai, ben, c'est ce que tout le monde me dit. Et puis, moi, je joue beaucoup moderne, je joue beaucoup Legacy. Et bon, Vintage plus Online, évidemment, parce que j'ai pas 40 000 piastres.
Ben oui, c'est ça.
Et donc, Teferi, Planeswalker, qui est standard. Qui était standard, ou en tout cas, il va l'être encore, mais j'imagine pour pas trop longtemps.
Encore un an.
Bon,
jusqu'à octobre prochain.
Parfait, ça. C'est cool parce que quand t'as des cartes en standard qui sortent, qui sont jouées dans d'autres formats, tu sais que t'as scoré.
C'est vrai.
Et ça, t'as scoré. Parce que récemment, dans les 2-3 dernières années, ils ont mis Jace the Mind Sculptor légal en standard. Okay. En moderne. Et Teferi est meilleur en moderne que Jace the Mind Sculptor qui est complètement brisé.
Oh oui. Boy, hein?
Oui. La raison, c'est que ça te coûte 3. C'est un Planeswalker à 1 bleu, 1 blanc, 3 colorless. Tu le joues, puis tu peux faire son plus 1 qui te fait piger une carte, puis à la fin de ton end step, tu untapes 2 lands.
Ouais. Fait que tu peux faire ton counter spell pour
exactement.
Le tour d'après.
Exactement.
Ouais, check Milan, check son regard de sadique.
Et t'as aussi le moins 3 qui est put target non-land permanent into its owner's library, third from the top. Donc,
excellent removal.
Donc, t'as deux choses là-dessus. T'as du card draw puis du contrôle.
Ouais.
Et il peut se protéger lui-même.
Ouais.
Même s'il coûte 5.
Le dernier, à toutes les fois que tu piges une carte, t'exiles un permanent d'un adversaire. Ça doit pas souvent se rendre à moins 8
ben,
et qu'il commence à 4 à coûte plus 1.
Je te dirais qu'en moderne, si tu te rends à moins 8, c'est parce que t'as scoré puis que t'as gagné, ça fait 10 tours.
C'est rendu c'est rendu là pour moderne, mais moi je le joue là, en Legacy. Puis je le pitch tout le temps à Force of Will. Parce que je veux caster Jace the Mind Sculptor.
Ouais.
Mais lui, je le garde comme backup quand je sais pas trop quoi faire. Là, si c'est la seule carte qui me reste là, qui a de la value.
Mais c'est principalement une carte de moi. Je joue beaucoup standard. Puis ça arrive en standard que tu réussis à faire le moins 8 ultimate que Exile Target Permanent. Ça inclut les LAN, hein, by the way.
Ouais.
En standard, surtout moins maintenant, là, mais je me rappelle en 2018, là, c'était le deck qui dominait le bleu et blanc. Et faut que tu aussitôt que Teferi sort sa table, faut que tu t'arranges qu'il va pas atteindre son moins 8. Parce que tu sais, bon, c'est les Planeswalkers,
ben ouais,
c'est comment ça marche.
Ça, c'est fini. Là,
après c'est ça, sûr, c'est
rare les emblèmes qui font pas que tu.
Ben, il y en a qui sont moins forts, mais dans celui-là, c'est que tu vas exiler les lands, puis dans le fond, il va carrément te couper. Le...
C'est ça. Plaisir pour tout le monde.
Qu'est-ce qui est cool, là, avant que Camilan continue, Teferi, il y a deux cartes de Planeswalker, puis les deux sont bonnes.
Ouais.
C'est vrai,
la première qui est sortie en Commander, c'est un de mes decks Commander que j'adore. C'est ultra brisé combo que Tommy adore aussi.
Ben oui, ben, on aime ça. Hein.
Puis la deuxième incarnation est bonne. T'sais, on a plein d'autres Planeswalkers. En exemple, qu'il y a une des six qui sont bonnes, mais lui, les deux sont juste comme excellente là, pour des raisons différentes, mais
voilà.
Puis en plus c'est Mace Windu, tu sais, c'est comme
c'est
le
vrai que c'est
Mace Windu.
Sinon peut-être bizarre. On peut parler du lore un peu là. Teferi, c'est
un jour je ferai un épisode et Teferi vient du set de Mirage là, mais pour faire une histoire courte en une minute, son pouvoir spécial c'est la mécanique phasing qu'il y avait dans Mirage là, fait que la magie Teferi, c'est il contrôle le temps.
Okay.
Parce que ce qui est arrivé, c'est que Teferi, c'était un élève de Urza, le Planeswalker Urza. Puis à un moment donné, dans une expérimentation de voyage dans le temps qui a mal tourné, Teferi a passé 10 ans dans une bulle où le temps se passait. Dans le fond, les 10 ans, c'était 3 secondes.
Okay.
Puis quand il est sorti de cette bulle-là, finalement, après 10 ans, Il y avait juste 3 secondes qui s'étaient passées. Il s'est rendu compte, c'est comme ça, il était maintenant un planeswalker, puis il était capable de contrôler le temps. Fait que les permanents que t'exiles avec Teferi,
c'est qu'ils aient
l'interprétation dans le passé, de l'histoire, c'est genre. C'est soit qu'ils n'ont jamais existé.
Ouais, ouais.
Tu sais, comme il a changé le temps, ils sont jamais nés, whatever. Ou carrément, là, tu sais, c'est un manipulateur de temps. C'est pour ça que sa première carte, c'était Teferi Temporal Arc.
Et voilà. Hey, s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui peut contrôler le temps, est-ce qu'il peut aller me parler en 1996 à Val d'Or et me dire de pas vendre mes cartes de Magic?
Ouais, même chose pour moi.
Ouais, on est tous d'accord, je pense.
Je vais envoyer ça par courriel pour finalement m'acheter un Nintendo puis de quoi de, que ouais. J'ai pas le droit de parler. J'imagine. Non, non, c'est légal.
Hey, là-dessus, on s'en va. Merci tout le monde. On s'en va vers notre sujet principal de la semaine après Bone. Jason, cette semaine, tu voulais nous parler un petit peu du pipeline que Magic the Gathering, la compagnie, utilise pour en venir à créer un nouveau set, des nouvelles cartes.
Oui, c'est un process, c'est comme une chaîne de production de voitures, un peu. Là.
OK.
Écoutez mon épisode 3, au début de Magic, de 93 à 97, là, dans le fond, de Alpha jusqu'à Mirage.
Ouais, on apprenait que c'était des joueurs de bridge.
Des amis de Richard Garfield qui créaient des sets. Qui disait à Richard Garfield, tiens, je t'ai créé un set, puis c'est ça qu'il utilisait. Mais après.
Vive le Homeland.
Ouais. fait que c'est pour ça que les sets étaient souvent débalancés, mais. Mais à partir de Tempest, c'était produit à l'intérieur de Wizard of the Coast. Ils ont commencé à engager des pros.
Tempest, c'est après Mirage, ça.
Ouais.
Chut, hein, ça.
Vers 97.
Il était quand même assez tard avant qu'ils reprennent le contrôle.
Donc, à partir de ce moment-là, les sets, ça prenait deux ans à produire en général en moyenne là, c'est-à-dire la première chose qu'ils font c'est t'as les designers,
okay.
Eux ils vont dire bon voici le concept du set,
ouais.
Par exemple Dominaria qui est sorti en 2018, c'est quoi le concept, bon ben c'est les 25 ans de Magic, on retourne sur Dominaria, fait que c'est quoi les mécaniques qui étaient, fait que là c'est là qu'ils développent les mécaniques, ça c'est 6-7 mois où ce qu'ils ils font dans le fond la colonne vertébrale d'un set.
Okay.
Tu sais, les mécaniques.
Dans le fond, la mathématique de.
Exactement.
Jeu.
Après ça,
ouais, ça doit être assez drabe à ce moment-là de regarder un tableau où l'équipe a comme écrit les patentes. Là, ça
ben, ils sont capables de faire des fausses cartes.
Ouais, ben sûrement. T'as juste besoin de l'ossature.
Sauf qu'il n'y a pas de dessin, il n'y a pas d'artwork. Là, c'est vraiment c'est bare. Puis ils ont envoyé ça après ça aux développeurs qui sont surtout des anciens pros, des anciens joueurs pros de Magic.
Ça, c'est à ce moment-là. Là, moi, ça fait longtemps que je joue à Magic et je trouve que la compagnie a très bien surfé ça. Dans le sens que quand ils découvrent un talent, ils l'importent tout de suite.
Ouais.
Genre, ils n'ont jamais nié qu'il y avait du monde vraiment meilleur. Ils ont bien surfé sur la montée des talents de Magic et comment les utiliser pour rendre le jeu meilleur. Comme exemple, c'est Magic the Gathering qui a créé le site d'éditeur de cartes de Magic.
Ouais.
Fait que là, eux autres, ils ont une copie de chaque nouvelle carte qui est créée. Ça veut dire qu'ils peuvent directement pomper dans une masse créative qui est quand même conséquente, parce que c'est tout le monde qui est intéressé par le jeu qui peut venir influencer le jeu.
Oui.
C'est un petit peu le contraire d'à peu près n'importe quoi d'autre. Genre, c'est rare qu'il y ait une telle démocratisation au sein d'un jeu qui se veut compétitif. Essaye d'aller changer une règle au tennis, mon gars, puis ça va être fini pour toujours.
Oui,
mais à Magic, si t'amènes une meilleure idée, on peut penser au Scry de Vancouver, au Mulligan de Vancouver. Quand tu mulliganes, tu peux scry c'est une petite touche, mais je veux dire, c'est du monde
mal,
des fans cool. Qui ont amené ça, comme Commander aussi, c'est ouais. Quelque chose qui a été créé par les fans et qui est rendu officiel. Bravo au jeu pour ça.
C'est ça qui est le fun. Puis, il engage les. Quand tu te démarques, Magic, il t'engage. Je pense que la condition, c'est que tu n'as plus le droit de jouer professionnel.
Non, faut que fair enough. Là,
fair enough. Puis, bah oui, tu crées des cartes. Je veux dire, ouais, je sais qu'il. Il y a un back and forth qui se fait entre le développement puis entre le design puis le développement, parce que tu sais là ils vont dire ah cette carte là est broken,
ouais.
Fait que là ils retournent ça au début de la chaîne,
c'est ça ce qu'ils ont pas fait avec Skullclamp mettons là.
Exactement.
Gang de tarte.
Ben, si vous écoutez le podcast de Mark Horsewater, là, c'est Drive to Work. C'est Mark Horsewater, c'est le principal designer des cartes magiques.
Et ça n'est un d'ailleurs qui a été.
Sorcier.
Ouais.
Ça n'est un qui a été recruté. Lui, ouais. Tu me disais qu'il a proposé à Scry, le premier magazine qui parlait de Magic, là, on puzzles. Était en 95. Lui, il a proposé des puzzles à l'époque et parce qu'il a été capable de prouver. Qui connaissait le jeu en amenant des puzzles qui divertissaient tout le monde, ben ils ont pogné une job de chef de compagnie que
ouais.
Tout le monde ici dans la salle aimerait avoir.
Oh, oui, c'est lui qui a c'est lui qui part l'idée puis qui a le dernier mot sur les cartes bien souvent. Puis parallèlement à tout ce travail-là, t'as l'équipe créative qui eux s'occupent de faire le storyline puis les dessins.
Ouais.
Pour les artistes, ils utilisent des artistes, des freelance qu'on appelle là. Fait que tu sais, ils vont fouiller sur internet. Ah tiens, tel artiste, ça semblerait bon pour nous. Fait que là, ils vont y faire un offre.
Il y en a qui restent.
Il y en a pas qui. Je pense qu'il y en a deux ou trois qui sont permanents.
De résidence comme Mark Tedden ouais. Qui sont là depuis 1993.
Mais la plupart c'est du freelance. Okay. Puis ils partent puis ils reviennent, puis ça bouge pas mal.
J'ai déjà lu quelque part que Magic the Gathering, Wizards of the Coast, était un des plus grands embaucheurs d'artistes au monde. Là.
Probablement.
Je veux pas, c'est un enfant sapresti du dessin puis du artwork. Ouais. Là.
Puis je sais que l'artiste ne détient pas le copyright de son œuvre.
Ben, non, mais canon.
Souvent, oui. Je veux dire, Magic, ils te payent pour le faire. Fait que c'est sûr que ça leur appartient, c'est leur propriété intellectuelle. Tout
sauf que Magic leur laisse, j'y arrivais, c'est que Magic te laisse. Mettons, tu as fait le dessin de Teferi, Hero of the Minoria. Tu peux vendre le truc original, puis ça, Magic s'en mêle pas. Puis il y a des artistes qui ont fait vraiment la palette, là. Comme des cartes, mais surtout dans les vieux sets là.
Moi, j'ai John Avon, j'imagine.
John Avon, il y a des artistes qui vendent leurs trucs là, c'est dans les 5 chiffres.
Non, j'ai vu Christopher Rush, j'ai vu ça passer 6,5 millions.
Ah,
6,5 millions le dessin original de Black Lotus. J'ai vu ça dernièrement dans les nouvelles.
Le Black Lotus?
Ouais, de Christopher Rush qui est mort malheureusement.
Ouais, mais ses enfants vont en profiter.
Ben, c'est peut-être pour ça que c'est 6,5 millions parce qu'il est mort.
Ouais, il en fera un.
Essaiera de mourir, tu vas voir tes dessins, mon gars.
Fait que c'est pas mal comme ça que les sets sont faits. Il y avait eu des problèmes aussi pour les usines qui impriment les cartes de Shadow of Innistrad, je pense, jusqu'à Ixalan. Et on va changer d'imprimeur, puis c'est là que vous avez probablement, si vous avez acheté des paquets depuis 2015,
ça ondule.
Les Pringles, là, okay. les cartes, ils ondulent dès que tu as un moindrement d'humidité. Pis ça, c'est vraiment j'ai eu une théorie sur Reddit là, que c'était parce qu'ils achètent en avance le carton.
Okay.
Ça vient en rouleau. Puis dans le fond, il était pogné. Parce que c'est des millions et des millions de
d'investissements. Je comprends, ouais, ça a là, été roulé.
Bon, ben, il va falloir qu'on. Non, le rouleau de papier que t'imprimes ta carte dessus,
ouais.
C'est de mauvaise qualité, mais tu peux pas juste changer parce que t'as déjà mis des millions pour acheter.
Ouais.
Fait que faut que tu l'utilises jusqu'à temps que t'en as plus.
Ouais.
C'est juste récemment, là, je pense que dans Guilds of Ravnica et Ravnica Legends, il n'y a plus de Pringles. Mais je suis pas encore sûr. Je pense que ça bouge encore un petit peu.
Mais c'est surtout les foils en passant.
Ouais.
Les foils,
c'est pire. C'est le problème des foils, ça.
Ouais, ouais.
Surtout des sets spéciaux, là, genre From the Vault.
Ouais.
Les cartes sont toutes warpées, puis sont encore plus épaisses que des foils que tu pognes dans des packs. Il y a comme une inégalité, mais c'est surtout au niveau des foils.
Même après 25 ans, là, ils ont encore des problèmes.
Mais veut pas, ça, les techniques d'impression moderne et tout, c'est comme, mettons, la Banque nationale du Canada importe tout le temps des nouvelles méthodes pour empêcher les fraudeurs de faire des faux billets. Mais eux autres, ils ont un petit peu le même problème parce que c'est un bout de carton gros comme une carte d'affaires qui peut valoir des 30 000, des 20 000 $ et ainsi de suite. Fait que c'est normal que ça sera jamais une discussion terminée dans le sens qu'ils vont tout le temps se battre contre des faussaires pour essayer de sortir du stock qui va avoir une nouvelle méthode de protection. Et ainsi de suite là, ils ont le droit de se planter anyway, les cartes valent aussi cher puis tu peux jouer
d'ailleurs,
avec
d'ailleurs pour authentifier qu'une carte est vraie c'est super cave mais il faut que tu la déchires puis au milieu tu vois il y a comme ouais c'est ça il y a une portion bleue
il y a les rosettes aussi d'impression il y a plein de trucs là. Moi je regarde ça de plus près parce que des fois j'achète des cartes de la maudite reserve list puis le truc le plus infaillible à portée de main là, c'est tu prends ta lumière de cellulaire. C'est les flashs à cette heure sont super forts.
Oui.
Puis si c'est uniformément avec une teinte bleutée puis que t'es capable d'avoir le truc en arrière de la carte Deckmaster ou le symbole de bleu très clairement puis que la lumière passe uniformément partout au travers, ça des fortes chances que ce soit une vraie carte. Parce que ça, apparemment, c'est le core, le blue core qu'ils appellent. Mm-hmm. C'est ce que les faussaires chinois, ils ont le plus de misère à faire.
Ouais. Bon, ben, arrêtez d'en parler, faudrait pas lui donner des indices.
Non, mais ils sont, à ce jour, ils sont pas capables, puis on
c'est
parle d'un
c'est pas qu'ils ont pas essayé.
Il y a probablement une industrie qui veut percer le mystère.
Juste une chose, j'ai vu la face de Tommy quand t'as dit reserved list. Tommy, non, quoi, la reserved list, c'est les cartes qui réimprimeront plus jamais. Comme, okay, mettons, les Bayou, les Volcanic Island, Black Lotus, les Mox, ces choses-là.
Ok. Certaines cartes rares, c'est qu'ils ont fait Wizard of the Coast, ça c'est des affaires légales, mais Wizard of the Coast en 95, ils ont dit aux investisseurs, j'avais vu dans un podcast, là, il y avait une affaire très intéressante, c'est que quand Magic a commencé, c'est en même temps que la bulle des comic books a pété.
Oui.
Puis, t'avais beaucoup de magasins qui allaient devenir les magasins qui vendent les cartes Magic à l'époque. Ils ont ramassé beaucoup d'argent d'avoir vendu des comic books, mais ils cherchaient comme un money sink, là. Pour remettre cet argent-là ailleurs. Qu'ils se sont mis à acheter des cartes comme les 7 Arabian Nights et Legends sont sortis. Ils se sont mis à faire beaucoup de spéculations là-dessus. C'est pour ça que c'est. Moi, je me rappelle, en 95, c'était impossible de trouver des Legends et des Arabian Nights. C'était déjà tout vendu.
Ouais.
Parce que tout l'argent de l'industrie des comic books serait allé dans les cartes Magic. Puis, Wizard of the Coast, dans des négociations légales, s'était engagé auprès de ses investisseurs, de ses spéculateurs, là, c'est d'autres des lobbyistes, j'imagine, à créer la reserve list. C'est-à-dire que tu as certaines cartes rares qui sont indiquées sur la liste que Wizard of the Coast s'est engagé à ne jamais réimprimer.
Okay.
C'est pour ça qu'il n'y a plus de double land comme des Bayou et ça.
Ben oui,
j'imagine, mais entre autres, le fait qu'un dual land qui n'est pas négatif pour toi fait que tu peux jouer toutes les couleurs aussi.
C'est très fort. C'est pour ça que depuis, ils n'ont jamais fait des. Toutes les double land à Star, ils ont tout le temps
un drawback,
une faiblesse, soit qui te font perdre la vie, ils arrivent à taper.
Tu peux pas les fetcher, tu peux pas. C'est plein d'affaires.
Il y a une infime portion, par exemple, la reserve list des cartes qui sont jouables et enviables. Il y en a beaucoup dessus qui sont juste là pour raison collection.
Non, mais c'est parce qu'à l'époque, ils savaient pas lesquels.
Ouais, ils savaient pas qu'il allait être bon, mais plus tard, tu vois, c'est comme juste une petite portion de ceux que tu veux vraiment. Les autres, c'est cool, ouais. Merci.
T'as un gros mouvement sur Internet là, de joueurs de Magic qui veulent l'abolition de la
reserve
list. Dont toi.
moi, je l'ai souvent dit, mais je pense que les dual lands devraient être communs, genre qu'il y en a partout là, même si les dual lands n'ont plus de valeur.
C'est un peu rendu ça, puis juste ça sera pas les originaux. L'affaire, c'est que ton dual land alpha, si tu sors une nouvelle édition de, je sais pas, Volcanic Island, il va peut-être perdre 100$ de valeur, mais tu t'en crisses, ça vaut 15 000.
Ça reste un objet ancien puis de collection.
Ben exactement.
Puis c'est sur l'aspect que je veux que tout le monde joue.
Oui, exactement.
Je veux pas arriver avec un deck vintage avec la Power 9, puis là, tout de suite, moi j'ai juste mon deck standard, ça me tente plus de jouer.
Ouais, c'est ça.
T'sais, moi j'aimerais ça que tu puisses l'avoir sans problème, là, c'est pas plus difficilement.
On va démocratiser le jeu plus.
Ben, je te dirais que c'est pour ça aussi qu'on joue souvent à plus que deux, parce que quand tu joues un contre un, c'est sûr et certain que, mettons, le deck le plus fort, le plus cher, c'est lui qui va gagner tout le temps. Mais dès que tu joues à trois, ben là, il y a de la politique, de la diplomatie qui se développe, puis là, c'est pas juste comme de rentrer dans l'autre, de faire attention à l'autre aussi. Fait que je pense que c'est une bonne manière d'équilibrer. C'est ce qui rend aussi le jeu pas mal infini. Moi, je préfère de loin les games à gang que les duels. C'est moins.
J'aime les duels, mais j'aime ça que tout le monde soit un peu sur le même pied d'égalité. Pas tout le monde le même deck, mais accès aux mêmes choses sans difficulté, soit financière ou accessibilité. Parce qu'il n'y a LGS dans son coin, fait qu'il achète des paquets au clé vidéo. Là,
Je pense là-dessus, on a pas mal fini avec le pipeline.
Juste un bémol à amener, ma petite théorie, là, c'est je pense, parce que les magasins avec quoi ils font leur argent, c'est les ventes des singles. Ils font beaucoup d'argent avec la reserve list, entre autres. Et ça fait en sorte que les magasins sont. Puis tu sais, ils sont pas riches. Là, les magasins Magic sont tout le temps ça fesse. À part peut-être les gros comme Valet de Cœur, mettons, là, mais tu sais, il y a beaucoup en région.
Il n'y a plus de magasins juste de Magic, on s'entend. Ils feront peut-être pas leur argent avec des singles, mais c'est lucratif quand tu sais comment faire de la business.
Non, mais mon point, c'est que moi, ce que je trouve le fun présentement, c'est que peu importe où tu vas dans le monde, dans une ville, là, tu vas tout le temps trouver un magasin Magic qui fait un Friday Night Magic.
Oui.
Puis, tu sais, je suis allé à Pabo en Gaspésie dans le temps des fêtes. Vous chercherez sur une map, vous allez voir, PABOS.
Ouais, il fait pas
c'est
beau.
Mon village natal en Gaspésie, là, c'est à 1 heure de route de Gaspé, puis ils ont un petit magasin c'est surtout des jeux de Nintendo, puis ils font des FNM. Tu sais, je veux dire, comme Moi, je trouve ça cool. Sinon, j'aurais pas pu jouer à Magic autrement que si...
Imagine, t'aurais été obligé d'aller sur Arena.
T'aurais
été obligé de passer la soirée en famille.
Je pense sur ces mots de sagesse de notre père de famille, Olivier. On va terminer cet épisode. On vous rappelle qu'il y a de la merch en ligne. Allez voir sur le site de Terrain Basique, sur la page Facebook, ou sinon sur le site de Production Podcast. Mon nom est Tommy Godette et Milan, merci beaucoup d'avoir passé ça avec nous. Olivier, François, merci à vous deux.
Ça fait plaisir.
Ça
fait plaisir.
Merci aussi à Martin Godette à la console et à la technique finale au montage. Il s'occupe du coréron. Vous irez voir ça. Je pense que ça parle de pêche aux dauphins ou une affaire de même. Merci beaucoup à Jason Keys. Toujours intéressant de te jaser de Magic. Je pense qu'on se reparle la semaine prochaine un petit peu de la même affaire, mais autrement. Mon nom c'est Tommy et on vous souhaite d'être le moins manascrou possible.
Tu veux participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E, ou écris-nous à podcast@icloud.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com.